Aristote, Métaphysique, livre 9, chapitre 1 à 5. Chapitre 1. Nous avons parlé de l'être premier, de celui auquel se rapportent toutes les autres catégories, en un mot, de la substance. C'est par leur rapport à la substance que les autres êtres sont des êtres. Ainsi, la quantité, la qualité et les attributs analogues. Tous ces êtres, comme nous l'avons dit dans les livres précédents, contiennent implicitement la notion de la substance. Non seulement l'être se prend dans le sens de substance, de qualité, de quantité, mais il y a encore l'être en puissance et l'être en acte, l'être relativement à l'action. Parlons donc de la puissance et de l'acte. Et d'abord, quant à la puissance, remarquons que celle qui mérite surtout ce nom n'est pas l'objet unique de notre étude présente. La puissance, de même que l'acte, s'applique à d'autres êtres que ceux qui sont susceptibles de mouvement. Nous parlerons de la puissance motrice dans ce que nous allons dire de l'actualité, mais nous parlerons aussi des autres sortes de puissance. La puissance et le pouvoir, nous l'avons déterminé ailleurs, se prennent sous plusieurs acceptions. Nous n'avons pas à nous occuper des puissances qui ne sont puissances que de nom. Une ressemblance a fait donner à quelques objets, dans la géométrie par exemple, le nom de puissance. D'autres choses sont dites puissantes ou impuissantes par une certaine façon d'être ou de n'être pas. Les puissances peuvent être rapportées à un même genre. Toutes, elles sont des principes et se rattachent à un pouvoir premier et unique, celui du changement, résidant dans un autre être en tant qu'autre. La puissance d'être modifié est, dans l'être passif, le principe du changement qu'il est susceptible de subir par l'action d'un autre être en tant qu'autre. L'autre puissance, c'est l'état de l'être qui n'est pas susceptible d'être modifié en mal, ni détruit par un autre être en tant qu'autre, par l'être qui est le principe du changement. La notion de la puissance première entre dans toutes ces définitions. Les puissances dont nous parlons se distinguent encore en puissances simplement actives ou simplement passives, et en puissance de bien faire ou de subir le bien. Les notions de ces dernières renferment donc, d'une certaine manière, les notions des puissances dont elles dérivent. Un être peut, soit parce qu'il a la puissance d'être modifié lui-même, soit parce qu'il a celle de modifier un autre être. Or, il est évident que la puissance active et la puissance passive sont, sous un point de vue, une seule puissance. Sous un autre point de vue, ce sont deux puissances. Il y a d'abord la puissance dans l'être passif. C'est parce qu'il y a en lui un principe. C'est parce que la matière est un principe que l'être passif est modifié, qu'un être modifie un autre être. Ainsi, ce qui est gras est combustible. Ce qui cède de telle manière est sujet à s'écraser. Et, pour le reste de même, il y a ensuite la puissance dans l'agent. Telles sont la chaleur et l'art de bâtir, l'une dans ce qui échauffe, l'autre dans l'architecte. Un agent naturel ne saurait donc se faire éprouver à lui-même aucune modification. Il y a unité en lui, et il n'est pas autre que lui-même. l'impuissance et l'impossibilité sont le contraire de la puissance, c'en est la privation. De sorte que, il y a, en regard de chaque puissance, l'impuissance de la même chose sur le même être. Or, la privation s'entend de plusieurs manières. Il y a la privation d'une chose qu'on n'a naturellement pas, et la privation de ce qu'on devrait naturellement avoir. Un être est privé ou bien absolument, ou bien à l'époque de la possession. La privation est encore complète ou partielle. Enfin, quand la violence empêche des êtres d'avoir ce qui est dans leur nature, nous disons que ces êtres sont privés. Chapitre 2. Des principes dont nous parlons, les uns résident dans les êtres inanimés, les autres dans les êtres animés, dans l'âme, dans la partie de l'âme où se trouve la raison. On voit qu'il doit y avoir des puissances irrationnelles et des puissances rationnelles. Et tous les actes, toutes les sciences pratiques, toutes les sciences enfin sont des puissances, car ce sont là des principes de changement dans un autre être en tant qu'autre. Chaque puissance rationnelle peut produire à elle seule les effets contraires. Mais les puissances irrationnelles ne produisent chacune qu'un seul et même effet. La chaleur n'est cause que de l'échauffement, tandis que la médecine peut l'être de la maladie et de la santé. Il en est ainsi parce que la science est une explication rationnelle. Or, l'explication rationnelle explique et l'objet et la privation de l'objet. Seulement, ce n'est pas de la même manière. Sous un point de vue, la connaissance de l'un et de l'autre est le but de l'explication rationnelle. Mais, sous un autre point de vue, c'est surtout celle de l'objet lui-même. Les sciences de cette sorte sont donc nécessairement science des contraires. Mais l'un des contraires est leur objet propre, tandis que l'autre ne l'est pas. Elles expliquent l'un en lui-même. Ce n'est qu'accidentellement, si je puis dire, qu'elles traitent de l'autre. C'est par la négation qu'elles montrent le contraire, c'est en le faisant disparaître. La privation première d'un objet, c'est, en effet, son contraire. Or, cette privation première, c'est la suppression de l'objet. Les contraires ne se produisent pas dans le même être, mais la science est une puissance en tant qu'elle contient la raison des choses. Et il y a dans l'âme le principe du mouvement. Ainsi donc, le sain ne produit que la santé, le chaud que la chaleur, le froid que la froidure. Tandis que celui qui sait produit les deux contraires. La science connaît l'un et l'autre, mais d'une manière différente. Car la notion des deux contraires se trouve, mais non point de la même manière, dans l'âme qui a en elle le principe du mouvement. Et du même principe, l'âme, tout en ne s'appliquant qu'à un seul et même objet, fera sortir l'un et l'autre contraire. Les êtres rationnellement puissants sont donc dans un cas contraire à ceux qui n'ont qu'une puissance irrationnelle. Il n'y a dans la notion de ces derniers qu'un principe unique. Il est clair que la puissance du bien emporte toujours l'idée de la puissance simplement active ou passive, mais elle n'accompagne pas toujours celle-ci. Celui qui fait bien, nécessairement fait, tandis que celui qui fait seulement, ne fait pas nécessairement bien. Chapitre 3. Il en est qui prétendent, les philosophes de Mégare par exemple, qu'il n'y a puissance que lorsqu'il y a acte, que lorsqu'il n'y a pas acte, il n'y a pas puissance. Ainsi, celui qui ne construit point n'a pas le pouvoir de construire, mais celui qui construit a ce pouvoir quand il construit, et de même pour tout le reste. Il n'est pas difficile de voir les conséquences absurdes de ce principe. Évidemment, alors, on ne sera pas constructeur si l'on ne construit pas, car l'essence du constructeur, c'est d'avoir le pouvoir de construire. De même pour les autres arts. Il est impossible de posséder un art sans l'avoir appris, sans qu'on nous l'ait transmis, de ne plus le posséder ensuite sans l'avoir perdu. On le perd ou en l'oubliant, ou par quelques circonstances, ou par l'effet du temps, car je ne parle point du cas de la destruction du sujet sur lequel l'art opère. Dans cette hypothèse même, l'art subsiste toujours. Or, si l'on cesse d'agir, on ne possédera plus l'art. Et pourtant, on se remettra immédiatement à bâtir. Comment aura-t-on recouvré l'art ? Il en sera de même pour les objets inanimés, le froid, le chaud, le doux. Et en un mot, tous les objets sensibles ne seront rien indépendamment de l'être sentant. On tombe alors dans le système de Protagoras. Ajoutons qu'aucun être n'aura même la faculté de sentir s'il ne sent réellement, s'il n'a la sensation en acte. Si donc nous appelons aveugle l'être qui ne voit point, quand il est dans sa nature de voir, et à l'époque où il est dans sa nature de voir, les mêmes êtres seront aveugles et sourds plusieurs fois par jour. Bien plus, comme ce dont il n'y a pas puissance est impossible, il sera impossible que ce qui n'est pas produit actuellement soit jamais produit. Prétendre que ce qui est dans l'impossibilité d'être existe ou existera, ce serait dire une fausseté, comme l'indique le mot même d'impossible. Un pareil système supprime le mouvement et la production. L'être qui est debout sera toujours debout. L'être qui est assis sera éternellement assis. Il ne pourra pas se lever s'il est assis, car ce qui n'a pas le pouvoir de se lever est dans l'impossibilité de se lever. Si l'on ne peut pas admettre ces conséquences, il est évident que la puissance et l'acte sont deux choses différentes. Or, ce système identifie la puissance et l'acte. Ce qu'on essaie de supprimer ainsi, c'est une chose de la plus haute importance. Il est donc établi que quelque chose peut être en puissance et n'être pas réellement, que quelque chose peut exister réellement et n'être pas en puissance. De même, pour toutes les autres catégories, il se peut qu'un être qui a le pouvoir de marcher ne marche pas, qu'un être marche qui a le pouvoir de ne pas marcher. Je dis qu'une chose est possible lorsque son passage de la puissance à l'acte n'entraîne aucune impossibilité. Par exemple, si un être a le pouvoir d'être assis, s'il est possible, en un mot, que cet être soit assis, être assis n'entraînera pour cet être aucune impossibilité. De même, s'il a le pouvoir de recevoir ou d'imprimer le mouvement, de se tenir debout ou de tenir debout un autre objet, d'être ou de devenir, de ne pas être ou de ne pas devenir. C'est surtout par rapport au mouvement que le nom d'acte a été donné à la puissance active et aux autres choses. Le mouvement, en effet, semble être l'acte par excellence. C'est pourquoi on n'attribue point le mouvement à ce qui n'est pas. On le rapporte à quelques-unes des autres catégories. Les choses qui ne sont pas, on dit bien qu'elles sont intelligibles, désirables, mais non pas qu'elles sont en mouvement. et cela parce qu'elles ne sont pas maintenant en acte, mais seulement peuvent être en acte. Car parmi les choses qui ne sont pas, quelques-unes sont en puissance, mais ne sont pas réellement, parce qu'elles ne sont pas en acte. Chapitre 4. Si le possible est, comme nous l'avons dit, ce qui passe à l'acte, évidemment, il n'est pas vrai de dire « telle chose est possible, mais elle ne sera pas ». Autrement, le caractère de l'impossible nous échappe. Dire, par exemple, « le rapport de la diagonale au côté du carré peut être mesuré, mais il ne sera pas mesuré », ce n'est pas tenir compte de l'impossibilité. Rien n'empêche, prétendra-t-on, qu'il n'y ait pour une chose qui n'est pas ou ne sera pas, possibilité d'être ou d'avoir été. Mais admettre cette proposition, supposer que ce qui n'est pas mais est possible est réellement ou a été, c'est admettre qu'il n'y a rien d'impossible. Or, il y a des choses impossibles. Il est impossible de mesurer le rapport de la diagonale au côté du carré. Il n'y a pas d'identité entre le faux et l'impossible. Il est faux que tu sois debout maintenant, mais cela n'est pas impossible. Il est évident d'ailleurs que si A existant entraîne nécessairement l'existence de B, A pouvant exister, nécessairement B peut exister aussi. Car si l'existence de B n'est pas nécessairement possible, rien n'empêche que son existence ne soit pas possible. Soit donc A possible. Dans le cas de la possibilité de l'existence de A, admettre que A existe n'entraîne aucune impossibilité. Or, dans ce cas, B existe nécessairement. Mais nous avons admis que B pourrait être impossible. Soit donc B impossible. Si B est impossible, nécessairement A l'est aussi. Mais tout à l'heure, A était possible. Donc B est possible. Donc A étant possible, nécessairement B est possible s'il y a entre A et B un rapport tel que A existant, B nécessairement existe. Donc, si A et B sont dans ce cas, admettre qu'alors B n'est pas possible, c'est admettre que A et B ne sont pas eux-mêmes entre eux comme on l'avait admis. Et si A étant possible, B est nécessairement possible, l'existence de A entraîne nécessairement celle de B. En effet, B est nécessairement possible lorsque A est possible signifie lorsque A existe, dans quelque circonstance, de quelque façon qu'il puisse exister, alors B aussi existe et il est nécessaire qu'il existe et au même titre que A. Chapitre 5. Des puissances, les unes sont mises en nous par la nature, telles sont les sens. D'autres nous viennent d'une habitude contractée. Ainsi, l'habileté à jouer de la flûte. D'autres, enfin, sont le fruit de l'étude, par exemple, les arts. Il faut donc qu'il y ait eu un exercice antérieur pour que nous possédions celle qui s'acquiert par habitude ou par le raisonnement. Mais celles qui sont d'une autre sorte, ainsi que les puissances passives, n'exigent pas cet exercice. Puissant, c'est ce qui peut être quelque chose, dans quelque circonstance, de quelque manière. Et tous les autres caractères qui entrent nécessairement dans la définition. C'est rationnellement que certains êtres peuvent produire le mouvement, et leurs puissances sont rationnelles, tandis que les autres sont privés de raison et n'ont que des puissances irrationnelles. Et parmi les puissances, celles-là résident nécessairement dans un être animé, tandis que celles-ci résident et dans les êtres animés et dans les êtres inanimés. Pour les puissances de cette dernière espèce, dès que l'être passif et l'être actif sont proches l'un de l'autre, dans les conditions requises pour l'action de la puissance, alors il est nécessaire que l'un agisse, que l'autre subisse l'action. Mais cela n'est pas nécessaire pour les puissances de l'autre espèce. C'est que les premières ne produisent toutes sans exception qu'un seul effet chacune, tandis que chacune de celles-ci produit les contraires. La puissance, dira-t-on, produit donc simultanément les contraires. Or, cela est impossible. Il faut bien, dès lors, qu'il y ait quelque autre chose qui détermine le mode, l'action. Ce sera le désir, par exemple, ou la résolution. La chose dont on désirera l'accomplissement sera la chose qui devra s'accomplir quand il y aura véritablement puissance et que l'être actif sera en présence de l'être passif. Donc, aussitôt que le désir se fera sentir en lui, l'être doué d'une puissance rationnelle fera la chose qu'il a la puissance de faire, pourvu que la condition requise soit remplie. Or, la condition de son action, c'est la présence de l'objet passif et telle manière d'être de cet objet. Dans le cas contraire, il y aurait impossibilité d'agir. Nous n'avons pas besoin, du reste, d'ajouter qu'il faut qu'aucun obstacle extérieur n'empêche l'action de la puissance. Un être a la puissance en tant qu'il a un pouvoir d'agir. Pouvoir non pas absolu, mais soumis à certaines conditions. Ce qui comprend cette autre condition qu'il n'y aura pas d'obstacles extérieurs. La suppression de ces obstacles est la conséquence même de quelques-uns des caractères qui entrent dans la définition de la puissance. C'est pourquoi la puissance ne saurait produire en même temps le voulut-on ou le désira-t-on, deux effets ou les effets contraires. Elle n'a pas le pouvoir de les produire simultanément. Elle n'est pas non plus le pouvoir de produire simultanément des effets divers. Ce qu'elle peut faire, voilà ce qu'elle fera.